Nous chanterons le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête.
Tranche de vie, une émission proposée par JF.
En tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Auditeur de Tranche de Vie, je suis aujourd'hui avec les représentants d'un métier rare. Nous venons de déjeuner et ces gens sont des arboristes, élagueurs, grimpeurs. Ils sont 5 autour de moi et ils représentent une fraction importante des arboristes, élagueurs, grimpeurs reconnus du département de la Dordogne. Comment on devient arboriste, élagueur, grimpeur ? En quoi consiste ce métier ? C'est ce que nous allons leur demander et je vais m'adresser d'abord à Guy B, qui est le plus ancien dans le métier. Guy B, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment et quand êtes-vous devenu arboriste et élagueur grimpeur ?
Ça, c'est la question. Eh bien, quand est-ce qu'on est vraiment élagueur ? Je ne sais pas, parce que j'ai commencé, moi, j'ai coupé des arbres un peu à tout va. Et n'importe comment au début, vu que j'étais un petit peu dans l'évolution. Et je suis devenu, on va dire, arboriste par les relations que j'ai connues et qui m'ont donné un peu des exemples. Donc il y avait à l'époque, il y avait Dejonque et puis Tavernier. Et donc je me suis aligné un petit peu sur des gens qui existaient comme ça, qui faisaient ça, qui essayaient de préserver au maximum l'arbre.
Et quand vous dites à l'époque, c'était quand même après Jésus-Christ ?
Non, c'était en 1984, par là. Voilà, 85.
C'est dans ces années-là qu'est née la profession telle que vous la pratiquez maintenant ?
Je dirais que l'évolution a commencé à cette période-là. Après, le métier continue toujours à progresser. Et donc, on a des comportements qui se sont affinés au fur et à mesure des années, quoi.
Ce métier, pourquoi est-ce que ce métier s'est développé et de la manière dont il est pratiqué maintenant, à savoir, si on essaie de le résumer, que vous pratiquez ce que vous appelez une taille raisonnée, au lieu d'abattre, de couper les arbres à tout va, comme vous le faisiez au début de votre activité.
Au fur et à mesure donc, du métier, on savait qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire, telles que monter avec des griffes dans un arbre pour monter le tailler, c'était pas la peine, quoi. Et après, bon, différentes actions aussi au niveau de savoir où couper, tout ça, ça fait qu'on évolue, on change et on s'adapte suivant ce qu'il y a à faire dans l'arbre.
Alors, arrêtez-moi si je me trompe, vous intervenez dans votre métier sur les arbres avec plus de discernement.
Oui, on va dire qu'on s'affine un petit peu.
Je vais me tourner maintenant vers Guillaume pour lui demander de me définir la taille raisonnée.
Alors en fait, moi je suis plutôt partisan, mais comme les autres, en fait, de dire qu'une bonne taille, c'est pas de taille, parce qu'au final, l'arbre, il n'a pas besoin d'être taillé. Nous, on taille juste pour de la mise en cohabitation, avec soit des maisons, soit des voisinages, des fois des fils électriques, ou des fois parce que l'arbre a des faiblesses mécaniques. Vous pouvez participer avec moi si vous voulez. Donc là, on va tailler. Maintenant, taille raisonnée, c'est un terme qu'on n'emploie plus trop, ou moins en tout cas, moins, parce que je dis taille, ça me gêne toujours en fait de dire que c'est raisonné, c'est obligé, quoi, on y va, quoi. Alors raisonné, oui, on prend un peu. C'est peut-être pour se justifier, quoi. Voilà,
vous voulez dire que si vous taillez un arbre, vous êtes tellement convaincu de la manière dont il faut traiter les arbres que si vous traitez un arbre, c'est forcément raisonné. C'est-à-dire que vous ne le faites jamais sans réfléchir ou sans réfléchir à ce que, aux conséquences que pourra avoir votre taille.
De toute façon, le problème, c'est que des fois, on taille des arbres et on sait très bien que ce qu'on fait, c'est pas bien. Mais voilà, c'est pas ce qu'il faudrait faire. Mais voilà, il y a la cohabitation avec, comme je disais, avec les maisons, avec des fils électriques, avec un tas de trucs qui fait que des fois, on va rentrer dans un arbre, on va pas faire n'importe quoi. Voilà, on va pas faire ce qu'il faut faire. Mais bon, voilà, on est obligé. On est toujours dans la contradiction de toute façon. C'est un métier où on est toujours dans la contradiction, ou souvent en tout cas.
On peut demander à William de nous dire un petit peu vraiment en quoi consiste le travail de l'arboriste et lagueur grimpeur.
Je dirais que c'est avant tout de gérer l'arbre par rapport à une demande et une contrainte. Enfin, on parlait tout à l'heure des contraintes. Il y a une entreprise en région parisienne qui existe peut-être toujours, qui s'appelait le SAMU, qui voulait dire soin des arbres en milieu urbain. Et ça définit assez bien notre métier. Et c'est vrai que, comme disait Guillaume, l'arbre n'a pas besoin d'être taillé, simplement il a besoin. On fait une forme de médiation entre le citoyen et l'arbre pour répondre à des contraintes environnementales. L'arbre, si l'arbre planté au milieu du champ n'a pas besoin d'être taillé, on pourrait intervenir dessus pour réparer des petites erreurs de la nature, des branches mal placées, mais c'est tout. Sinon, et dans une écologie globale, il n'y a pas d'action sans réaction, c'est-à-dire que même un arbre malade va profiter à une faune. Donc en fait, on intervient essentiellement pour faire cohabiter l'arbre et trouver de la médiation. Et notre rôle est beaucoup de pédagogie, justement, d'apprendre à percevoir l'arbre dans sa durée, ce qui est quelque chose qui est quand même assez nouveau. C'est-à-dire qu'on connaît la taille productive, la sylviculture pour donner des grumes, des bois d'œuvre, ou la taille, l'arboriculture fruitière pour donner du fruit. Tout ça, c'est les tailles de production. C'est dans les connaissances populaires, dans le milieu rural, tout le monde a ces connaissances-là. Notre métier est amené à développer des connaissances assez nouvelles qui va permettre à l'arbre de durer. Donc il ne produit rien, il ne rapporte rien, et qui s'inscrit en opposition avec la taille de production.
Alors ce que vous faites, c'est de la taille d'entretien ?
Essentiellement, la taille d'entretien et de préservation, maintenir un arbre en bonne santé dans son environnement qui est artificiel.
Moi, je vous ai souvent entendu dire que toute taille, c'était une blessure. Toutes les fois qu'on coupe une branche d'un arbre, c'est une blessure. Et donc, ça a des conséquences qui peuvent être tout à fait négatives. Vous confirmez ?
Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui conditionne beaucoup l'approche de l'arbre, c'est-à-dire de prendre en compte que l'arbre est un être vivant. Et c'est-à-dire que chaque action amènera une réaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et c'est pour ça qu'il y a... Les connaissances sur la production fruitière ont emmené le citoyen sur des routes, sur des fausses routes. C'est-à-dire que pour mettre à fruit un arbre, il faut le mettre en stress. C'est-à-dire le tailler pour qu'il ait l'instinct de reproduction.
En fait, des fruits au lieu de faire du bois.
Tout à fait. Et ce qui a complètement, on a transposé ça à l'arbre d'ornement en se disant tailler, ça fait du bien. Non, ça fait aucune taille. Une taille, c'est une plaie. Donc ça se résume, une coupure chez un animal, c'est une blessure. Une taille de branche sur un arbre, c'est une blessure. Après, il y a taille et taille. Il y a des règles à respecter en connaissance du métabolisme de l'arbre. Il y a des règles à respecter, donc c'est un moindre mal. Notre action, c'est de la médiation. Et bien tailler l'arbre, c'est surtout bien respecter l'arbre, c'est surtout bien le planter. Planter l'arbre au bon endroit et dans un environnement favorable, et ce qui évitera des interventions...
Sur un arbre. Et comment est-ce que vous travaillez et en particulier, qu'est-ce qu'a apporté cette notion d'ascension, de grimpage dans l'arbre à votre métier ?
Mais écoutez, donc l'ascension dans l'arbre, c'est le déplacement dans l'arbre. C'est ce qui permet d'accéder au point inaccessible qu'il y avait à l'époque. Donc l'ascension sur corde maintenant, ce n'est plus l'ascension sur griffe. Donc voilà, on travaille dans les arbres avec des cordes. On essaie d'effectuer le moins de dégâts possible sur les frottements, par exemple, des cordes. La pique des griffes qui était effectuée avant. Donc voilà, nous on travaille sur des nouvelles méthodes d'accès dans l'arbre, voilà, qui se passent sur corde.
Mais... Ces méthodes d'accès dans l'arbre, Guy Bay disait tout à l'heure que lui, il avait commencé à travailler de cette façon dans les années 80, elles n'existaient pas auparavant ?
Non, pas du tout. Voilà. Ça fait quoi? Ça fait combien de temps? Une quinzaine d'années maintenant, je pense. 25 ans. 25 ans que les techniques ont bien évolué, que la corde est apparue dans l'arbre. Mais elle évolue encore. On l'évolue encore. On utilise des fausses fourches, qu'on appelle des fausses fourches. Donc plus de frottement de cordes sur l'écorce, qui peut blesser l'arbre. Donc voilà.
Vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une fausse fourche?
Alors une fausse fourche, c'est une sangle avec deux anneaux à ses extrémités où on passe notre corde donc dans ces anneaux, ce qui nous permet d'éviter de passer la corde sur l'écorce et blesser l'arbre.
Alors quelles sont aussi les autres pièces de votre outillage, votre attirail pour grimper dans les arbres?
Eh bien écoutez, donc on a corde. On a les prusiques, c'est ce qui permet de se déplacer sur la corde. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dites-moi. Le baudrier, le harnais, bien sûr. Hein, voilà. Le harnais, c'est ce qui nous permet de nous attacher, bien sûr, la sécurité. Alors, on a notre ami Guy B qui a inventé un système très 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 simple. Accessible à tout le monde, c'est une canne à pêche que l'on a transformée, enfin qu'il a transformée en un rallongement de bras et qui permet d'aller chercher des points dans l'arbre, casser des petites branches sèches sans avoir à intervenir avec une scie ou avec un quelconque objet.
Et donc, alors ça c'est déjà un outil ça.
Ça c'est
déjà un outil d'élagage. Mais comment faites-vous pour installer vos cordes d'ascension dans les points très élevés que vous voulez atteindre?
Alors ça c'est une technique, ce qu'on appelle le lancer du petit sac. Donc c'est un petit sac de 300-350 grammes. On fait un petit balancier et on envoie ça dans une fourche avec un petit filin. Voilà, un petit filin qui fait 2,5 mm à peu près. On accroche à ce petit sac qu'on jette, on essaie de jeter hein, au plus haut dans l'arbre et par laquelle on va passer notre corde à la place de cette petite ficelle, quoi.
D'accord. Et là, ça se fait toujours à la main. C'est pas de moyen mécanique.
Ouais.
Bon. Alors ça, c'est les moyens d'ascension.
Oui.
Vous hissez avec ces moyens-là dans l'arbre. Finalement, c'est du matériel d'escalade ou du matériel d'alpinisme.
Ben, il y a un petit peu un mélange, oui, c'est ça. Il y a un peu de spéléo qui est là au milieu de tout ça. Il y a un petit peu d'escalade. Et puis après, tout ce qui est marin aussi, hein, les nœuds, tout ça. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est un petit mélange, un petit mix alpinisme, escalade, spéléo et marin. Voilà.
Sachant que maintenant... Est spécifique à notre métier. Ouais, sachant que maintenant le matériel est spécifique à notre métier, quoi. Il n'est plus pris à droite à gauche. Le matériel est fabriqué, nos baudriers sont spéciaux pour l'élagage, voilà, les cordes aussi, tout est. Voilà. C'est tout.
Et alors, je me tourne maintenant vers Jean-Louis. Une fois que vous êtes arrivé dans l'arbre, au point que vous avez choisi, de manière à pouvoir pratiquer votre taille en choisissant vraiment les points où vous allez intervenir, Qu'est-ce que vous avez comme outillage pour couper ce que vous avez décidé de couper?
Alors, déjà, l'idée de grimper en rappel dans les arbres, pour faire la taille d'entretien, c'est d'accéder le plus loin possible sur la branche et de tailler le plus fin possible. Donc de faire des plaies de taille le moins important possible. Que finalement, l'arbre peut arriver à cicatriser assez rapidement.
Donc alors, ça, le plus loin possible sur la branche, ça veut dire quand même des problèmes de sécurité.
Alors, ça veut dire des problèmes de déplacement. C'est pour ça qu'on est en rappel, avec une attache le plus haut possible dans l'arbre, qui peut nous permettre, après en rappel, de marcher sur les branches en sécurité. On a toujours une autre petite longe de sécurité aussi pour s'accrocher quand on arrive au poste de travail. Alors voilà, on va couper une branche, on arrive, on va dédoubler une branche ou la raccourcir, toujours sur des tire-sèves. Quand on arrive sur ce poste de travail, on est déjà en rappel. Et normalement, dans les règles de sécurité, on se longe une deuxième fois. Et là, on est en sécurité. Bon, il faut avoir un peu l'équilibre aussi, hein. Il faut vouloir le faire, c'est un métier qu'il faut vouloir faire.
Enfin. Vous êtes quand même vous êtes obligé d'avoir une certaine stabilité pour faire intervenir les outils.
Mais le fait d'être en rappel et en sécurité, deux fois longé, donc du coup, ça nous permet d'avoir les deux mains de libre. Hein. Et on travaille mieux quand on a deux mains qu'une main. Et donc voilà, donc on va pouvoir tailler la branche comme...
Alors vous accédez à votre poste de travail avec plusieurs outils ?
Alors on a des soudis, on a une scie à main pour des petites coupes. Et ça nous arrive des fois d'avoir des plus grosses coupes à faire et on a des petites tronçonneuses spéciales à l'élagage qui sont des tronçonneuses avec poignées à faire à repasser, comme on dit, donc sur le dessus, qu'on peut manier d'une main. Donc il faut quand même... à la fin d'une journée d'élagage, on est fatigué aussi. C'est quand même un métier très physique. Donc voilà les outils qu'on a. C'est donc tronçonneuse, scie, éventuellement sécateur. Et on a des sécateurs manuels ou on a des sécateurs à perche aussi.
Télescopiques ?
Télescopiques, oui, voilà, oui. Ce qu'on appelle des cocus dans la région.
C'est particulier à votre profession ou bien c'est régional ?
C'est comme ça, enfin, c'est très local aussi au Périgord, on va dire.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est que le démontage d'un arbre ?
Alors, le démontage d'un arbre, si on ne peut pas abattre un arbre en direct pour X raisons, des contraintes autour, c'est des bâtiments, c'est un jardin, c'est des végétaux qu'on veut conserver, parce qu'il y a des fils électriques, vous voyez, des contraintes majeures et qui font que l'arbre, on ne peut pas l'abattre en direct. Donc on est obligé de le démonter. C'est un terme qui veut bien dire aussi ce qu'il veut dire. Donc on le démonte en petits tronçons.
À partir du haut.
À partir du haut, ou tout dépend de la configuration du chantier aussi. Hein. On peut le démonter à partir du haut, on peut le démonter en montant le long du tronc et couper les branches tout en accédant en haut de l'arbre. Ou après, on est obligé aussi de faire de la rétention, c'est-à-dire qu'on retient les branches qu'on coupe hein, par l'intermédiaire de cordes et de poulies. Pour pas qu'elle tombe partout, pour ne rien casser autour. Quoi.
Oui, parce que quelquefois, vous avez des chantiers où vous êtes obligé de prendre ce genre de précautions, parce qu'il y a des choses qui sont... Jean-Louis, là, vous abordez un problème qu'on va aborder un petit peu plus tard, et qui est un grave problème. Et maintenant, je vais retourner à nouveau vers William. Pour lui demander de nous donner quelques précisions sur une autre technique.
Il y avait des zones de fragilité dans un arbre, notamment des branches avec des insertions un peu fragiles, c'est-à-dire des enfourchements fragiles. Plutôt que de tailler, c'est-à-dire il y a quelques années, on s'est aperçu que bon, les tailles de réduction étaient à proscrire dans les arbres, provoquaient un affaiblissement ou des réactions qui n'étaient pas forcément favorables au développement de l'arbre. On s'est aperçu qu'en posant des câbles, c'est-à-dire en obanant une branche, c'est-à-dire en la retenant, soit de manière statique ou dynamique, suivant c'est-à-dire élastique ou pas, pouvait permettre de répondre à un problème sans avoir à tailler l'arbre. C'est-à-dire qu'on place un câble, acier si on veut que ce soit statique, synthétique si on veut que ce soit élastique, afin de permettre l'absence de rupture sur une zone de fragilité. Quoi. C'est une intervention qui s'est généralisée, mais qui n'est pas forcément très très connue et très très répandue. Pourtant, c'est une solution qui est peu onéreuse et qui répond à des problèmes mécaniques sur certains arbres. Que l'état sanitaire de l'arbre le permet, lorsqu'il est capable de supporter, parce qu'il faut il y a une branche à retenir, mais il faut quelque chose pour la retenir. Donc on va s'ancrer sur une partie saine pour permettre d'obaner une zone fragile. Donc il est évident qu'il faut que ce sujet soit solide au moins à un endroit.
Alors, je me tourne maintenant à nouveau vers Guy B. Vous êtes donc obligé de respecter dans votre métier des consignes de sécurité tout à fait strictes. Est-ce que vous jugez que c'est un métier dangereux ? Est-ce qu'il arrive quand même qu'il y ait des accidents ?
Mais bien sûr. Bien sûr, c'est un métier dangereux. Dès l'instant où on commence à décoller du sol, utiliser des outils, ça dépend de nous-mêmes. Ça dépend de notre état de vigilance, de notre état de... je dirais pas de santé, mais de conditions physiques. Et donc, effectivement, on a un petit danger d'absence. On peut avoir une absence et puis, d'un seul coup, ça peut prendre des proportions que je connais moi-même parce que j'ai dépassé ces limites-là, j'ai eu des accidents. Donc, c'est un métier dangereux, c'est sûr. Y a pas de...
Donc, c'est un métier qui demande une très bonne condition physique.
Une condition physique et aussi une connaissance des outils, des cordes et de l'arbre qui est vivant, qu'il faut savoir décrypter si l'endroit où on va pouvoir nous soutenir. Donc il faut lire. C'est une connaissance générale de l'arbre. Et si on ne possède pas cette connaissance générale de l'arbre et de son comportement et de son matériel, ben, on s'expose quand même à des dangers qui sont réels. Qui
est...
Marc, est-ce qu'il y a des arbres que vous préférez tailler et d'autres que vous n'aimez pas tailler ?
Alors bien sûr, il y a plein d'arbres que l'on préfère. Alors pour ma part, le platane, le cèdre, le chêne bien sûr. Le chêne c'est un arbre très 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 sympa parce qu'il y a un déplacement qui est sympa. Donc à partir du moment où il y a un déplacement qui est sympa, la taille est sympa. Il y a des arbres au contraire comme les érables, la cygnée. Avec plusieurs collègues, on n'aime pas trop tailler parce que déjà on se déplace mal. Donc voilà, première. Et puis en plus, il a une mauvaise réaction à la taille. Donc le noyer, par exemple. Le noyer aussi, ce n'est pas des arbres qui ont une bonne réaction. Donc c'est toujours, c'est pas toujours agréable à tailler.
Qu'est-ce que vous appelez mauvaise réaction à la taille ?
Notamment pour le noyer, par exemple. Il réagit très, très, très fort à une taille. Il pleure beaucoup. Enfin, voilà. Il fait beaucoup de réitérations. Donc ça l'embellit pas beaucoup en fait, alors que d'autres réagissent beaucoup moins. Le cèdre réagit moins, par exemple le platane réagit moins.
Alors quand vous dites le noyer pleure, enfin moi il m'est arrivé de couper les branches de noyer et puis effectivement quand j'ai vu ce qui sortait, ça m'a fait peur, peut-être pas au point de me faire pleurer, mais enfin quand même c'est impressionnant.
Il y a des périodes sur certains sujets, il y a des périodes à respecter. Et le noyer notamment, il se taille après les fruits, c'est-à-dire qu'en octobre, après la récolte. Il y a deux périodes. Il y a juin, qui est un peu plus difficile à trouver parce qu'elle est plus courte, mais il y a une période parce qu'il ne faut pas tailler pendant le débourrement. La seule période réellement où il ne faudrait pas tailler un arbre, c'est au moment du débourrement, c'est-à-dire au moment du réveil. C'est-à-dire au printemps, lorsque les bourgeons éclosent, là, on devrait ne pas tailler à cette période-là. Après, les tailles plus drastiques seront faites en hiver, les tailles douces seront faites en été. Mais sur certains sujets, comme les noyers, il va abondamment pleurer, c'est-à-dire perdre des écoulements de sève très importants, si on taille hors des périodes. La meilleure période, ça va être octobre après les fruits. Comme les cerisiers, on va tailler un cerisier au moment de la récolte des fruits au mois de juin pour éviter la gommose, la formation de gomme qui se crée. Certains sujets, les charmes dans un hiver très doux comme le nôtre qu'on a eu cette année, nous a posé des grosses difficultés parce qu'il y a eu des écoulements de sève, enfin des écoulements tout le temps, pratiquement tout le temps. C'est-à-dire des années comme cette année avec un redoux, c'est très très difficile au niveau gestion des arbres, quoi. Il y a certains arbres comme ça, très peu, pas nombreux. C'est sur le mont noyer, cerisier et charme, où la taille. Mais les bois blancs en général ont tendance à...
Comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous, Guy Bay, avec le recul que vous avez dans votre métier, est-ce que vous voyez une évolution des mentalités dans ce domaine ? Est-ce que les gens sont plus attentifs maintenant à la santé de leurs arbres, à leur comportement, qu'ils ne l'étaient quand vous avez commencé à travailler ?
Oui, peut-être un peu, mais en même temps, c'est appartient à chacun de s'informer et de savoir s'informer sur l'arbre et savoir s'ils veulent les soigner, s'ils le prennent comme un meuble et qu'ils considèrent que ça doit rentrer dans leur cadre à 3-4 mètres de haut et que voilà, on les maltraite. Ça peut pas aller, quoi, ça dépend de plein de gens. Et puis, bon, quand nous, on s'adresse à un particulier, on peut en parler, on peut l'éduquer. Maintenant, quand on s'adresse à des communes, il y a des fois, on parle à un interlocuteur, on ne parle pas au propriétaire de l'arbre. Et la politique peut changer au bout de 5 ans parce que ça change de municipalité et on change de comportement avec les arbres. Donc là, c'est très compliqué. On attaque un sujet qui est un peu difficile.
Enfin, on peut dire d'une manière générale que comme quand il s'agit de faire un enfant, il vaut mieux réfléchir avant de commencer qu'avant de planter l'arbre.
Exactement. Il faut s'imaginer tout ce genre de déboire qu'on pourrait avoir. Ouais. Donc planter l'arbre au bon endroit, c'est ça. Nous, on sait que c'est la chose principale à penser avant toute chose. C'est savoir où le planter pour ne pas être embêté plus tard dans l'avenir, pour ne pas avoir à le tailler en fait. Et ce qui serait bien, c'est qu'on soit au chômage un jour parce qu'on a bien réfléchi la plantation avant. Voilà.
Je voudrais, le temps avance malheureusement, ça va trop vite, mais je voudrais vous demander à chacun, avant de nous arrêter, quelque chose auquel vous pourrez répondre le plus rapidement possible, peut-être même par oui ou par non. Si on considère tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, la manière dont est traitée la végétation naturelle et artificielle, enfin plantée, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ou est-ce que vous êtes pessimiste ?
Pessimiste, mais je ne vais pas étaler là le discours parce que ce serait trop vaste. C'est vraiment...
Même pas pessimiste raisonné.
Si on veut ressembler à ce qu'on dit, oui. La taille raisonnée, non. Pessimiste, oui, pessimiste, mais fataliste, quoi. Enfin, bon, on verra bien, quoi, c'est tout. Hein.
Mais quand même décidé à continuer
métier. Bien sûr, hein, il faut toujours continuer dans le bon sens, se battre de toute façon pour faire avancer les choses.
Guillaume ? Oui, bon, moi je serais plutôt un réaliste. Alors je vais un réaliste, donc je suis souvent traité de pessimiste. Mais voilà, donc moi je pense que de toute façon ce qui se passe dans notre métier reflète la société. Enfin, c'est voilà, mais comme dans d'autres métiers, je pense qu'il n'y a pas que le nôtre, quoi. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, en tout cas brièvement comme ça. Je vais pas sans s'étaler, oui. Voilà.
C'est
William.
Je dirais que je suis un pessimiste lucide, un petit peu comme nous, donc qui résume un optimiste. Je dirais que c'est une période un peu charnière, c'est-à-dire qu'on dispose, c'est un petit peu comme nos métiers. Il y a 30 ans, on manquait de professionnels formés. Aujourd'hui, on manque de citoyens avertis, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est possible. C'est-à-dire que le savoir existe, les moyens sont peut-être limités, mais les consciences ont la capacité de bouger. Donc voilà, tout est. Nous, on continue parce que tant qu'à. Et on a la chance de pouvoir avoir de donner une portée à nos actes, quoi, à travers ce métier.
Et vous êtes convaincu que cet intérêt, au moins des particuliers pour les arbres, on parle pas, laissons de côté la question des forêts, en particulier des grandes forêts naturelles et de leur sort. Ça n'est pas une mode et ça ne sera pas passager, je veux dire que c'est vraiment entré dans les mentalités.
Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui, enfin, malheureusement on est arrivé à un tel point, à une telle extrémité, qu'on ne peut plus se cacher la réalité, quoi, des conséquences de nos actes, quoi. Donc il y a une prise de conscience qui est réelle, mais est-ce qu'elle est réelle parce qu'elle est devenue très facile, parce que c'est juste un constat, voilà. Mais il y a un acte militant inévitable derrière chaque arbre. Bien vivre avec son arbre, c'est bien vivre avec son voisin. Donc il y a des compromis à faire avec son environnement, avec les autres, et l'arbre en est un exemple. Et voilà, donc tout est possible.
Vous êtes quand même un optimiste. Marc,
votre
diagnostic.
Ouais. Moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que l'évolution fait son chemin. Moi, ça fait 11 ans que je pratique ce métier-là et il y a une grosse évolution. Les mentalités changent et donc je suis optimiste.
Merci.
Mais moi, je dirais que je serais plutôt opticimiste. Je sais que ça ne veut rien dire, mais voilà, c'est un constat, c'est vrai. Après, ce serait bien que toute personne, quand il se lève le matin, qui sort dans son jardin si l'on a, ou qui se promène dans la rue et qui regarde un arbre, se dise c'est peut-être grâce à lui que je peux respirer parce qu'il me donne l'oxygène dont j'ai besoin.
Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte.
C'était Tranche de vie. une émission proposée par Jean-François.
Offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde. Good.